Docteur Robert Yarbrough, Épître pastorale, Session 4. 1 Timothée 3. Symbole copyright 2024 Robert Yarbrough et Ted Hildebrandt. Il s'agit du Docteur Robert W. Yarbrough dans son enseignement sur les Épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 4, 1 Timothée 3. Nous poursuivons notre étude des épîtres pastorales en regardant 1 Timothée, et nous allons examiner 1 Timothée 3, et ce sont des instructions apostoliques pour les dirigeants pastoraux et aussi pour les disciples. Et quand nous arrivons à 1 Timothée 3, nous sommes en quelque sorte entre ces désignations parce que nous lisons des instructions apostoliques à un leader pastoral, Timothée, mais cela affecte les disciples qui veulent être des leaders. Parce que nous lisons au début de 1 Timothée 3, voici un dicton digne de confiance, et je lis la NIV, et j'ai le New American Standard sur le côté droit juste comme référence, car il existe différentes manières de traduire certains de ces mots que nous allons rencontrer, et je voulais juste une traduction alternative là-haut pour référence. Voici une parole digne de confiance, et je pense que c'est la troisième parole digne de confiance que nous voyons maintenant dans 1 Timothée. Celui qui aspire à devenir surveillant désire accomplir une noble tâche. Et surveillant, je pense, n'est qu'un autre terme pour désigner le leader de la congrégation. Il y a une fluidité dans les termes du Nouveau Testament qui désigne différents aspects de la tâche pastorale. Il y a berger, soit comme verbe, soit comme nom, il y a surveillant, il y a aîné, et probablement un ou deux que j'oublie, mais ici le terme surveillant est utilisé. Le terme grec est episcopos, d'où le terme épiscopal. Il est également traduit en anglais par évêque. C'était la traduction King James, parce que c'était une église anglicane, et ils avaient des évêques, et l'évêque était lié à episcopos, le surveillant, mais si vous regardez un dictionnaire grec, episcopos va simplement être surveillant et non, d'abord. Tout, évêque. Nous allons donc le prendre en termes de leader de la congrégation, comme nous appelons un pasteur. Or, le surveillant doit être irréprochable. Ainsi, le verset indique que c'est une bonne chose si quelqu'un aspire à ce qu'elle ose, cette belle et bonne tâche, et maintenant il énonce les qualifications d'une telle personne qui ressent ce désir. Au-dessus de tout reproche, fidèle à sa femme, et vous pouvez voir à droite le New American Standard dit le mari d'une seule femme, et c'est plus vrai au grec, ce qu'on dit toujours, et c'est vrai, le grec dit un homme d'une seule femme, ou mari d'une seule femme, et donc mari d'une seule femme est une traduction plus directe, mais qu'est-ce que cela signifie? Les gens ont suggéré une femme à la fois, pas une polygame. Les gens ont suggéré, comme le fait la NIV, que cela signifie en réalité être fidèle à sa femme. Cela ne signifie pas mari d'une seule femme, ce que certains ont interprété comme signifiant, si vous avez déjà divorcé, vous ne pouvez pas être pasteur. Maintenant, il y a des gens qui ont divorcé, j'en suis sûr, qui ne devraient pas être pasteurs, mais cela va probablement trop loin dans la relation mari-femme, parce que Paul ne parle pas, qu'en est-il des hommes qui sont divorcés? Il donne simplement des qualifications génériques pour un surveillant, et j'aime donc la NIV ici qui dit être fidèle à sa femme parce que je pense que cela interprète correctement l'esprit de ce que Paul entend par mari d'une seule femme. Tempéré, rappelez-vous plutôt, nous avons entendu parler d'hommes qui avaient un tempérament colérique, eh bien, si les hommes veulent être des surveillants, ils doivent être tempérés, ils doivent se maîtriser. Cela va dans le même sens, pas hors de contrôle, pas de gens indignés, mais des gens qui contrôlent. Respectable, et on pourrait demander respectable à qui? Eh bien, je pense que ce serait à peu près tout le monde. Certaines personnes ont un comportement bizarre, elles ne sont pas agréables à côtoyer, et il peut y avoir toutes sortes de raisons à cela, et Paul vient de dire que cette personne ne devrait pas attirer l'attention sur elle-même par des tendances ou des comportements scandaleux. Il doit être hospitalier, et là, je pense que c'est une référence à quelque chose que tous ces hommes envisagent en quelque sorte, un homme marié. Un homme marié est envisagé. Je ne pense pas que cela signifie qu'un seul homme ne peut pas être pasteur, mais la plupart des hommes, lorsqu'ils sont des hommes depuis très longtemps, s'ils peuvent avoir une femme, ils en auront probablement une. C'est une bonne chose s'ils le font. Dans leur mariage, ils doivent avoir ces qualités, ils doivent être visibles aux yeux de tous. Ils doivent être visibles dans leur mariage, et l'une des choses que vous faites dans le mariage est de vivre ensemble, de manger et de partager une table. Vous disposez donc ici d'un excellent lieu de sensibilisation pour l'Évangile, car vous pouvez inviter des gens dans votre famille, qui est un microcosme de l'Église. Puisqu'il s'agit d'une église de maison, l'église est un groupe de familles. Lorsque la famille est dispersée dans ses maisons, elle est toujours l'église, elle n'est tout simplement pas l'église assemblée. Mais ils sont toujours témoins du Christ, et un mariage, c'est deux personnes, là où deux ou trois se sont réunis en mon nom, me voilà au milieu d'eux. Tout ce que nous faisons doit être au nom de Jésus. Ainsi, une table chrétienne dans une maison devrait être une table de témoignage et une table de réception d'autres chrétiens pour la communion fraternelle, le soutien, l'encouragement et la nourriture. Mais aussi des opportunités de montrer l'amour de Dieu aux autres et d'évangéliser, donc ce candidat doit être une personne qui, en combinaison avec sa femme, est une personne hospitalière. Je connais des femmes qui aimeraient être hospitalières, mais leurs maris ne veulent pas qu'on les interrompe pour manger, ou ils veulent être au bord du lac le week-end, ou ils ont autre chose à faire. Leur maison est leur château. Leur maison n'est pas un lieu pour le ministère. Donc, si tel est votre engagement, vous ne devriez pas être pasteur. Je connais aussi des églises qui ne sont pas très chaleureuses parce que le pasteur et sa femme ne s'entendent pas très bien. Quand vous entrez dans l'église, vous pouvez y rester longtemps sans savoir pourquoi, mais il n'y a pas de sentiment d'accueil. C'est parce que le pasteur et sa femme ne sont pas hospitaliers parce qu'ils ne s'entendent pas très bien. L'église n'est donc pas hospitalière. Si le pasteur et sa femme ne donnent pas l'exemple de l'acceptation et de l'affirmation mutuelle et d'un foyer quelque peu ouvert où ils peuvent mettre les gens à l'aise, l'hospitalité est un travail. Celui qui cuisine travaille et celui qui nettoie travaille. Dans notre foyer, c'est ma femme qui fait la cuisine, elle est très douée pour ça. Je fais le ménage, donc je sais que lorsque nous voulons être hospitaliers, je dois d'abord être impliqué dans la préparation, car souvent, elle dira, « Iriez-vous chercher ça ?» ou elle adore le faire. Dites, « Eh bien, nous allons résoudre ce problème. » Puis elle dit, « Et tu vas griller, n'est-ce pas ?» Elle me le demande généralement d'une manière agréable, mais je sais que ce qu'elle dit, c'est que tu vas faire un grill. Tout cela fait partie de l'hospitalité. Si vous ne voulez pas être hospitalier, vous ne devriez pas être dans le ministère. C'est donc une qualification. Bien entendu, être capable d'enseigner implique que vous êtes capable d'apprendre, car vous ne pouvez pas enseigner si vous n'apprenez pas. J'ai donc mentionné dans une conférence précédente combien il était important dans l'Église primitive que les femmes soient des disciples, et que Timothée et les pasteurs fassent de la place et encouragent les femmes à se consacrer au discipulat. Beaucoup de femmes sont qualifiées pour devenir surveillantes parce qu'elles apprennent. Beaucoup d'hommes ne lisent jamais, et parfois ils en sont même fiers. J'ai fait mes études universitaires, j'ai entendu des hommes le dire, et je n'ai jamais lu un livre. Eh bien, c'est peut-être vrai, je ne m'en vanterai pas, et vous ne pourrez probablement pas enseigner grand-chose si vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir et apprendre. Mais capable d'enseigner. N'étant pas enclin à l'ivresse, cela ne signifie pas être un abstinent, même si c'est bien d'être un abstinent, mais vous ne devriez pas être une personne qui vit en quelque sorte de buzz en buzz. Pour certaines personnes, c'est une sorte de rituel. Parfois c'est vraiment excessif, mais parfois c'est juste à la limite de l'excès. Ils aiment juste qu'on allume non pas les deux tiers, mais peut-être un huitième. Si vous êtes enclin à l'ivresse, Paul dit que ce n'est pas une bonne qualification. Pas viol mais doux, donc pas seulement pas viol, mais positivement quelqu'un qui a des manières de chevet. Quelqu'un qui a une présence réconfortante lorsque l'occasion l'exige. Une chose que je recherche, c'est à quoi ressemble un candidat ou un ministre en ce qui concerne les enfants. Est-ce qu'il remarque les enfants? Connaissent-ils les noms des enfants? Les enfants aiment-ils cet homme, parce que vous pouvez en quelque sorte les flatter et vous inquiéter pour eux, mais eux, à cet égard, sont comme des animaux de compagnie. Parfois, les animaux savent si vous les aimez ou non. Les chiens grognant pour une personne, puis ils lèchent la main de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce chien sait que cette personne aime les chiens. Certains enfants savent que ce type est effrayant. Mais il y a des pasteurs qui ont du sens avec les enfants. Je ne dis pas qu'il faut avoir du sens avec les enfants, mais une personne douce. Un homme violent et important ne remarquera probablement pas les enfants, mais un homme qui n'est pas viol mais doux. Ensuite, continuez avec certaines de ses autres qualifications, il y a de fortes chances qu'il ait un œil sur les enfants, qu'il s'occupe des enfants, et qu'il se rende surtout compte que l'avenir de chaque église réside dans ses enfants. Et aussi, pour en revenir aux femmes qui sont disciples, le discipolat est une activité volontaire, et les gens doivent vouloir apprendre de vous. J'appelle cela avoir la bonne volonté des femmes. Si un pasteur n'a pas la bonne volonté des femmes de l'Église, son ministère n'ira pas très loin. Les femmes doivent sentir que cet homme répond bien à nos besoins en matière de disciples. Et pour redevenir douces, les femmes remarquent si vous prenez soin de leurs enfants, les hommes aussi, mais moins d'hommes le remarqueront ou s'en soucieront. Mais toute femme ayant un enfant sera très, très heureuse si cet enfant développe une amitié avec le pasteur, mais généralement cela doit se faire à l'initiative du pasteur. Il doit être une personne douce, qui ne se précipite pas vers l'enfant et ne le terrifie pas, mais qui se baisse et regarde l'enfant, apprend son nom, prie pour l'enfant et développe une relation avec l'enfant. Donc cette personne est une personne douce, pas querelleuse, encore une fois en colère, pas une amoureuse de l'argent. Cela élimine beaucoup de monde, mais c'est une qualification. Ensuite, passons au côté explicitement domestique, verset 4. Il a besoin de bien gérer sa propre famille, et vous voyez dans les écrits de Paul une oscillation entre la femme étant la chef de famille, ce qu'elle est, et le mari étant le chef de famille, ce qu'il est. Il y a donc une sorte de réciprocité, il y a encore cette division du travail, cette synergie relationnelle ordonnée. Ils ont des responsabilités différentes, mais ils partagent une responsabilité de surveillance de la famille, tout comme le pasteur enseigne et exerce l'autorité et la surveillance de l'église, de la congrégation et des familles ensemble. Le père, qui va devenir surveillant, doit montrer qu'il a des chances de gérer plusieurs familles car il gère bien sa propre famille. Ses enfants lui obéissent ou, comme le dit le nouveau standard américain, les gardant sous contrôle en toute dignité. La NIV dit, d'une manière digne de plein respect. C'est tout, ce langage n'est que sténographie, c'est très concis. J'en dirai plus dans une minute. Vous avez besoin d'une imagination sanctifiée pour voir ce qu'il dit ici, vous pouvez obliger les enfants à obéir, et vous avez peut-être grandi dans une famille où vous avez obéi, et c'était presque sous peine de mort. Si vous ne l'avez pas fait, les pères surtout peuvent être très violents dans leur discipline. Ils peuvent s'aimer à la terreur chez leurs enfants, qui sont très résistants, et lorsqu'ils sont en public. On peut croire que tout va vraiment bien, mais à la maison, il fait très sombre et c'est très brutal. Ce n'est pas le genre de suggestion dont parle Paul. Il ne dit pas qu'il faut quelqu'un qui bat ses enfants en privé, mais en public, cela semble respectable. Il parle d'un style parental qui entraîne les enfants dans une relation où ils apprennent et grandissent, et où ils font ce qu'on leur dit parce qu'ils sont des enfants. C'est tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du Nouveau Testament, que les enfants doivent obéir à leurs parents. Mais nous parlons d'obéir à des parents qui sont dans une alliance les uns avec les autres, dans une alliance avec Dieu, et qui développent une relation d'alliance avec leurs enfants. Il ne s'agit pas de méthodes autoritaires, draconiennes, brutales et abusives, qu'elles soient psychologiques ou corporelles. Ainsi, quand il dit, d'une manière qui mérite tout le respect, vous avez peut-être vu certains parents faire un très bon travail avec leurs enfants, et certains enfants s'en sortent plutôt bien, grâce à leurs parents, A ont reçu la faveur de Dieu, et B n'a pas empêché Dieu de nourrir leurs enfants. Ils ont encouragé cette éducation et ils ont aimé leurs enfants sont maintenant adultes, ils donnent du temps à leurs parents et prennent soin de leurs parents. Il y a une relation merveilleuse, vous pouvez la voir se développer dès l'enfance. Vous pouvez voir, même parfois chez les enfants de 2 ou 3 ans, vous pouvez voir qu'il y a une relation. Les parents le font bien, c'est ce que l'on veut rechercher chez un candidat, les enfants lui obéissent, d'une manière digne de respect. Nous ne parlons pas de tactique musclée ou de discipline militaire, nous parlons de quelque chose de nourrissant et de quelque chose qui ressemble au Christ. Il ne doit pas s'agir d'un converti récent, et les nouveaux convertis peuvent susciter beaucoup d'enthousiasme. Nous voyons cela dans le monde des célébrités, une célébrité, un athlète, un acteur devient chrétien, et ils sont interviewés, et tout d'un coup, ils sont sous les projecteurs, et ils disent des choses scandaleuses, parce qu'ils sont de nouveaux chrétiens. Et puis, le pire, c'est que dans 2 ou 3 ans, peut-être qu'ils ne seront plus chrétiens. Ils ne pouvaient pas supporter la pression, dit Paul, ils pourraient devenir vaniteux et tomber sous le même jugement que le diable, dit le New American Standard, tomber dans la condamnation encourue par le diable. Donc, nous ne savons pas si c'est le jugement qui a été porté sur le diable, ou le jugement que le diable provoque dans la vie de quelqu'un, mais l'effet est le même. Les nouveaux convertis sont susceptibles d'échouer, ils ne sont pas testés, ils ne sont pas développés, ils manquent de compétences et d'expérience. Ils ont peut-être besoin de résister à la tentation, et peut-être pensez-vous à la tentation sensuelle, mais il existe toutes sortes de tentations dans le ministère. Un jour, un ami m'a parlé d'une bagarre qu'il avait eue avec un membre de sa congrégation. Il était pasteur et il est allé rendre visite à l'homme, et l'homme est sorti et il était très hostile. Ils se sont disputés verbalement, puis cet homme a tendu la main et a poussé mon ami, puis mon ami, qui était un très bon combattant, et il a battu cet homme. Cela n'a pas mis fin à son ministère, mais cela aurait peut-être dû. Il n'était pas prêt pour le ministère. Il n'était pas un nouveau converti, mais il était un nouveau ministre, et cela lui poserait également des problèmes avec ce verset suivant. Il doit également avoir une bonne réputation auprès des étrangers afin de ne pas tomber dans la disgrâce et dans le piège du diable. Faisons une pause pour quelques observations à ce sujet, et permettez-moi de diviser un peu mon écran car j'ai besoin de le rechercher. Tout d'abord, le fait que Paul passe du chapitre 2 du culte aux dirigeants du chapitre 2, aux dirigeants de congrégation, nous rappelle que le rôle de Timothée, tel que Paul l'envisageait, devait inclure le recrutement pastoral et la formation pastorale. Et cela nous rappelle que les pasteurs devraient toujours chercher à former un nouveau leadership, un meilleur leadership. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important que les pasteurs soient doux. Nous n'avons pas vu le mot humble, mais ce serait un mot qui serait implicite dans beaucoup de ces qualifications. Les pasteurs peuvent être assez territoriaux et assez jaloux de leur leadership et de leur territoire, et il ne leur vient peut-être pas à l'esprit qu'ils sont remplaçables et qu'à mesure que l'Église se développe, vous avez besoin de nouveaux dirigeants. Ou encore, il ne leur vient peut-être pas à l'esprit que Dieu pourrait exiger leur vie. Bientôt, ils pourraient mourir bientôt ou être appelés ailleurs. Ainsi, les pasteurs doivent toujours faire tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de leur emploi, pour ainsi dire. Nous avions un professeur de séminaire dans ce séminaire il y a des années, et il avait beaucoup de succès. Quelqu'un a demandé, quel était le secret de votre réussite? Il a dit, j'ai toujours embauché des gens plus intelligents que moi. Et ainsi, son organisation a prospéré, et une partie de la diaconie d'un ministre est de rendre les autres meilleurs, de rendre les autres meilleurs dans leur vocation chrétienne et leur service chrétien. Il y a un film génial qui a remporté un documentaire, je pense, je ne sais pas, un Oscar ou quel que soit le nom du prix, en 2014, pour le meilleur documentaire, et il s'appelait 20 Feet from Stardom. Et il s'agissait de choristes, et il s'agissait principalement de femmes afro-américaines, qui ont grandi en chantant dans l'église. Mais ils sont devenus choristes dans les chansons de la Motown dans les années 1960, et pour les Rolling Stones, sur une chanson intitulée Gimme Shelter, il y a une femme nommée Mary Clayton, elle s'est levée du lit au milieu de la nuit, un gars l'a appelé, nous besoin d'un chanteur suppléant. Et c'est ce qu'elle faisait en studio, elle était chanteuse de studio. Et ces femmes, pendant plus d'un an, ont chanté pour Sting, et elles ont chanté pour les Stones, presque aucune d'entre elles n'a réussi en tant qu'artiste solo. Mais leur point fort était de fournir ce son de fond qui, si vous aimez les Rolling Stones et que vous écoutez Gimme Shelter, cette choriste de Mary Clayton fait cette chanson. Et Mick Jagger en obtient le mérite, mais c'est Mary Clayton qui donne vraiment du piquant. Et un pasteur donne du piment à la vie de beaucoup de jeunes couples et de gens qui sortent, ils peuvent même oublier, je ne pense pas qu'ils le font habituellement, ils l'apprécient généralement, mais ils peuvent oublier ce que le pasteur l'a fait. Et ils ne sauront jamais combien le pasteur a prié, ni le service qu'il a rendu en coulisses. mais c'est implicite, en se tournant immédiatement vers les qualifications pour le leadership, Timothée devait avoir un œil et une sensibilité pour les gens qu'il pouvait faire grandir, qu'il pouvait encourager dans la direction de leurs aspirations, afin que l'Église ait les dirigeants dont elle a besoin. L'oikonomia de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'économie de Dieu. Les églises, dans la providence de Dieu, font la volonté de Dieu, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église, mais en règle générale, les églises ne s'élèvent pas au-dessus du niveau de leurs dirigeants. Et si vous avez des dirigeants égoïstes, ou des dirigeants qui ne font pas leur travail, qui ne développent pas leur leadership, parce qu'ils veulent diriger les choses, ils ne veulent pas de compétition, ou ils n'aiment pas travailler, c'est du travail à développer. Dirigeants. Quand vous avez des enfants, normalement vous pouvez faire les choses 4 fois plus vite sans leur aide, mais vous devez utiliser vos enfants, les aider à faire des choses, à faire des travaux ensemble, A, ils apprennent, B, vous apprenez la camaraderie, C, ils apprennent à faire les choses par vous-même, vous les développez, futur adulte. Donc, c'est vraiment une belle image de Timothée, non seulement entrant et exerçant l'autorité et mettant en place des structures et s'assurant que les gens s'y conforment, mais encourageant les gens qui veulent aspirer à devenir enseignants et surveillants dans l'Église, bergers dans l'Église. Église. Les qualités que nous voyons dans un Timothée 3 ne sont pas exhaustives, ce n'est pas un ensemble complet, c'est représentatif, et souvent vous avez été peut-être dans des églises, j'ai été dans des églises où vous évaluez les gens, j'étais et je faisais partie des conseils des diacres et nous évaluions les gens, et j'ai été évalué par les gens. Ce processus d'évaluation nécessite du discernement. Personne ne répondra parfaitement à toutes ces qualifications, et il existe d'autres qualifications qui ne sont pas mentionnées, comme, par exemple, les jeux de hasard ou la pornographie. Il y a des choses qui ne sont pas explicitement mentionnées, mais que l'on pourrait déduire de cette image représentative que nous obtenons, quelque chose qui n'est pas répertorié, mais qui est présent dans la vie de la personne, et pour l'instant cela la disqualifie. Où il peut y avoir d'autres choses positives qui ne sont pas répertoriées et que nous pouvons reconnaître, ce qui les qualifierait davantage. Alors n'utilisez pas cela, comme je le dis dans la prochaine déclaration, comme une liste de tâches à accomplir. Toutes ces qualités, je pense, devraient être considérées, en termes d'alliance, de relation avec Dieu, dont nous avons déjà parlé dans ces conférences. Ces qualités doivent être considérées comme des expressions de sainteté. Et je définis que comme une marche avec Dieu, Dieu est saint, et pour marcher en communion avec lui, nous devons permettre à l'évangile du Christ de nous transformer et de nous rendre saints. Et dans cette marche avec lui, nous pouvons avoir une relation étroite, conforme et fructueuse. C'est proche, c'est réel, c'est conforme, nous sommes soumis au Seigneur et c'est fructueux. C'est une vie fructueuse pour Dieu. Cela se fait par la foi en Jésus-Christ, qui est saint et qui donne son Saint-Esprit. Ce ne sont donc pas les qualifications d'un bon vendeur immobilier. C'est formidable d'être un bon vendeur immobilier. Et il y a beaucoup de choses, vous devez être une personne sociable, être multitâche, connaître la région et être bon en chiffres. Je ne sais pas quelles seraient toutes les qualifications. Mais ce ne sont pas des choses justes, qualitatives ou quantitatives. Ce sont des caractéristiques qui sont souvent observables lorsqu'une personne a reçu l'évangile et a grandi dans l'évangile. Et ils arrivent à un point où Dieu les attire et leur donne cette aspiration à vivre une vie de service dans la direction de la congrégation. Ce ne sont pas des formalités, ce n'est pas une liste de points à remplir, mais une esquisse composite. Alors passons maintenant aux qualifications. Non pas pour les surveillants, mais pour les alliés des surveillants. Vous avez un pilote et puis vous avez quelqu'un qui pilote un avion à côté du pilote qui peut être appelé un ailier ou qui peut être un deuxième pilote comme un copilote peut être appelé un ailier. Les pasteurs se consacrent au ministère de la parole, de la prière et à la surveillance de la congrégation. De nombreuses œuvres de service doivent être accomplies dans la congrégation et ne sont pas centrées sur la parole et la prière. Je ne dis pas que les diacres ne devraient pas enseigner ou prier. Je parle simplement de division du travail et de concentration. Vous avez des diacres et ils doivent être dignes de respect. Ne négligez pas cela de la même manière, les premiers mots du verset 8. Parce que cela montre l'analogie étroite à bien des égards entre les surveillants et les diacres. Ils possèdent tous deux des qualifications élevées. Je pense que cela implique qu'ils ressentent tous les deux un appel de Dieu. Il y a un besoin dans l'Église. Et je pense que les gens peuvent sentir que je dois me présenter pour cette opportunité de ministère. Les diacres doivent être dignes de respect. Sincères. Avez-vous déjà rencontré une personne qui va à l'église et qui n'est pas sincère? Une personne qui avait peut-être même des fonctions dans l'église, mais il fallait être son partenaire de golf ou quelque chose du genre. Ou vous allez pêcher avec eux et vous découvrez que cette personne n'est vraiment pas si religieuse, ni si spirituelle, ni si pieuse. Ils ont un visage d'église. Mais ce n'est pas la vraie personne. Paul dit que pour ce travail, les gens doivent être ce qu'ils sont au point B tout comme ce qu'ils sont au point A. Ils doivent être des chrétiens cohérents. Cela doit être une chose réelle dans leur vie. Dieu est réel pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela doit être là. Encore une fois, quelque chose à avoir avec l'alcool. Ne pas boire beaucoup de vin. Je pense que le roi James a dit, pas un buveur de vin. Donc, si c'est le mot que vous préférez, utilisez celui-là. Ne pas rechercher un gain malhonnête. C'est une autre façon de dire, libérer l'amour de l'argent. Ils doivent garder la main sur les vérités profondes de la foi avec une conscience claire. Ils doivent être des disciples qui comprennent l'enseignement doctrinal de l'Église à un niveau sophistiqué. Ils doivent d'abord être testés. Il est parfois facile de recruter des bénévoles et de se dire ensuite, eh bien, nous les formerons au fur et à mesure. Mais c'est une erreur de nommer au service spirituel dans l'Église des personnes qui n'ont pas atteint un niveau de compétence et un niveau de compréhension des vérités profondes de la foi et qui ne les vivent pas. Leur conscience est tranquille. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sans péché, mais cela signifie qu'ils vivent dans un cycle d'obéissance à Dieu et de repentance lorsqu'ils pêchent. Et ils sont testés. C'est à nous de déterminer comment nous les testons. Alors, s'il n'y a rien contre eux, qu'ils servent comme diacres. Nous en avons maintenant un autre de la même manière, et celui-ci est très controversé. Certains disent que ce seront des femmes diacres. Certains disent que ce seront les épouses des diacres. Et je dirais que c'est vrai pour les épouses des diacres et des surveillants. Je pense que c'est presque acquis, mais je pense qu'il le rend explicite aux diacres parce qu'il réalise, en parlant des surveillants et des diacres, à quel point les épouses sont importantes dans ce tableau. Et je ne vois pas d'indication claire que Paul charge des femmes de devenir diacres. Maintenant, je vais vous laisser le soin, à vous et à votre église, à son ordre d'église. De nombreuses églises ont des femmes diacres, et nous devrions certainement avoir des femmes qui effectuent le travail diaconal. Parfois, il s'agit plutôt d'une formalité et les gens n'essaient pas vraiment de faire une déclaration sur le rôle des femmes. Ils disent simplement que nous devons reconnaître la valeur des femmes dans le service diaconal dans l'Église. Je comprends cet argument. Je respecte cet argument. Mais je pense que, d'après ce que j'ai compris, il ne s'agit pas ici des femmes diacres. Il s'agit des épouses des diacres et, implicitement, des épouses des surveillants. Ils doivent être dignes de respect, ne pas être des bavards malveillants, mais être modérés et dignes de confiance en tout. Elles doivent posséder les mêmes qualités remarquables que celles auxquelles leurs maris sont tenus dans ces qualifications. Donc, un chrétien solide, une femme chrétienne solide. Pour en revenir au diacre en soi, un diacre doit être fidèle à sa femme et doit bien gérer ses enfants et sa maison. Ceux qui ont bien servi acquièrent une excellente compréhension et une grande assurance dans leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, je pense que c'est la seule référence à la divinité. Eh bien, il y a l'Église de Dieu en 3.5, et maintenant nous avons ici Jésus-Christ. Mais cela ne va pas sans dire que tout cela, ces surveillants de l'Église de Dieu, toutes ces qualifications, tous ces rôles, tout cela est en Christ et pour Christ et à travers Christ. Il y a donc une part théologique dans tout cela qui, encore une fois, nous ne voulons pas les traiter comme des qualifications par cœur, comme pour le vendeur immobilier dont je viens de parler. Aujourd'hui, le ministère de l'Église primitive exigeait des apôtres, puis des pasteurs, puis des serviteurs de la parole, ainsi que des personnes davantage axées sur le soin personnel et social de l'Église, afin que les apôtres, les pasteurs et les serviteurs de la parole puissent être libérés pour se concentrer sur leur travail. Bien que le mot diacre ne soit pas utilisé dans Actes chapitre 6, il existe une tradition assez ancienne dans l'Église de voir se nommer dans Actes chapitre 6 pour servir de la nourriture aux veuves qui parlaient soit l'hébreu, soit l'araméen, soit le grec. Il y a eu un différend au sein de l'Église parce que l'action sociale de l'Église était mauvaise, elle avait des problèmes, elle avait des partialités. Et ainsi, les apôtres s'enlisaient, ils étaient pasteurs à Jérusalem, ils s'enlisaient dans ces sortes de choses logistiques, pour nourrir les gens. En attendant sur les tables, ils l'appelaient. Et Christ a lavé les pieds des gens. Ainsi, servir aux tables n'est pas au-dessus des apôtres. Ce n'est pas au-dessus des pasteurs. Et chaque pasteur va probablement parfois servir aux tables. Mais être pasteur ne signifie pas que vous devez accomplir toutes les tâches imaginables, et le plus bas sera le mieux. À un moment donné, vous devez accomplir votre tâche principale, qui est la parole, la prière et votre soin spirituel envers les gens. J'appelle cela le soin des âmes. Vous devez prendre soin des âmes. Et il y a beaucoup de choses logistiques dans le ministère de l'Église pour lesquelles vous avez besoin de serviteurs à un autre niveau et avec d'autres formations et d'autres appels, et c'était les diacres. Diacre signifie serviteur dans un rôle de soutien de la pastorale de l'Église. Et la pastorale de l'Église est dirigée par l'enseignement et la supervision du pasteur. Vous avez donc un pasteur et un diacre. Et je ne veux pas bureaucratiser ces rôles, mais je pense que ce que nous trouvons chez Paul nous justifie de parler d'une fonction pastorale. Et d'ailleurs, un office diaconal. C'est un saint appel. Vous êtes mis à part pour quelque chose, et cela ne devrait pas vous glorifier ni vous mettre sur un piédestal. En même temps, vous portez une responsabilité particulière. Et on vous promet, je pense, une habilitation spéciale. Et c'est pourquoi ces qualifications spéciales sont accordées. Les surveillants, les pasteurs et les diacres sont tenus à des normes élevées. Avec ce mot de la même manière. Verset 8. Des normes élevées de sainteté. Des normes de compétences élevées. Capables d'enseigner. Au niveau de connaissance de la foi. Je ne connais pas votre église ni votre région, mais je sais qu'il peut être très difficile d'amener les hommes à être studieux en matière de théologie et de livres, articles et discussions qu'il est utile de connaître si vous voulez faire ministère. Si vous voulez bien exercer votre ministère, il y a beaucoup à apprendre. Et beaucoup d'hommes sont occupés. Et beaucoup d'hommes n'ont peut-être pas beaucoup appris depuis qu'ils étaient à l'école ou au collège quand il s'agit du genre de choses comme enseigner la Bible ou enseigner la doctrine ou comprendre des questions doctrinales ou éthiques, ce ne sont peut-être pas des compétences que certains hommes ont beaucoup développées. Mais les normes sont élevées ici pour une raison. Et si vous regardez les deux offices, pour ainsi dire, la différence est plus une question d'appel que d'engagement ou d'excellence en tant que disciple. Il y a des diacres qui sont très, très avancés en connaissances et très, très avancés en matière de pastoral. Ils ne sont tout simplement pas appelés à être pasteurs. Et donc, nous ne devrions pas considérer les diacres comme des pasteurs ou des diacres de deuxième ou troisième classe, car, eh bien, vous pouvez en quelque sorte être un laquais et être un diacre. Non, les diacres ont des normes très élevées. C'est une tâche sainte, mais ce n'est pas la tâche de surveillance de la congrégation ni la tâche d'instruction à laquelle le pasteur est appelé. En outre, les femmes et les épouses doivent refléter le caractère spirituel et la compétence de leur mari. Ils ont besoin les uns des autres et comptent les uns sur les autres. Je pense à un livre formidable du célèbre pasteur américain R. Kent Hughes. Il l'a peut-être même coécrit avec sa femme, mais il s'intitulait « Libérer le ministère du syndrome du succès ». Étagère Kent Hughes, qui, soit dit en passant, a baptisé mes deux enfants, raconte l'histoire du grand ministère qu'il a commencé. Et l'église le soutenait, et il allait implanter une église, et il avait eu un grand succès dans son église, l'église de maison. Et il est allé implanter cette église, et il a fait de son mieux, et rien ne s'est produit, et c'était tellement décourageant. Et finalement, il a tout simplement abandonné. Il a décidé que Dieu ne m'avait pas appelé à cela. Et donc, il est rentré à la maison, et Kent Huguet, un homme peut-être de ma taille, pas énorme, mais pas petit. Et sa femme est petite, Barbara. Et il a dit à Barbara, j'y ai pensé et j'y renonce. Et elle lui a dit sans équivoque qu'il n'abandonnerait pas cela. Et elle lui dit, j'ai assez de foi pour nous deux. Et bien sûr, c'était quelque peu injuste, mais je suis sûr que c'était aussi avec beaucoup de sentiments forts. Elle faisait preuve de discernement, à juste titre, ce n'était pas le moment d'abandonner. C'était le moment d'attendre, de prier et de continuer à travailler. Et ils ont continué, et les choses ont évolué. Et Kent Huguet est encore aujourd'hui un ministre très efficace, malgré sa vieillesse. Mais cela est représentatif de la façon dont les maris et les femmes se stabilisent mutuellement, s'encouragent mutuellement et fournissent la tête de pont de camaraderie et de joie dont vous avez besoin pour être efficace dans votre ministère. Vous ne pouvez pas exercer le ministère si vous êtes toujours surchargé, ou si c'est comme votre travail de 9 heures à 5, et alors vous avez une vraie vie ici. Un ministre du Christ, c'est votre identité. Mais vous avez aussi une identité en tant que mari et en tant qu'épouse, et il peut y en avoir, vous pouvez l'avoir, c'est une oasis. C'est un sanctuaire contre la tempête du monde plus vaste dans lequel vous êtes tous deux appelés à exercer votre ministère. Et donc, la raison pour laquelle il veut promouvoir le caractère et les épouses est parce qu'il réalise à quel point les épouses et les maris sont symbiotiques. Que le mari soit diacre ou que le mari soit pasteur, il n'ira pas loin sans une femme qui s'affirme et aussi une femme qui l'aide dans sa vie quotidienne, l'aime comme le Christ aime l'Église. Le microcosme, qui alimente la douceur, la compassion et le souci des autres du pasteur, est une relation saine avec sa femme. Et si vous avez une relation stérile avec votre femme, votre ministère chrétien en tant que diacre ou pasteur ne portera pas les fruits qu'il pourrait et devrait porter. Ils ont besoin l'un de l'autre. Enfin, Dieu récompense ceux qui portent le fardeau de la direction de l'Église à la manière du Christ. Et voilà le mot, je suppose que c'est dans la section suivante. Ceux qui ont bien servi acquièrent une excellente position et une grande assurance dans leur foi en Jésus-Christ. C'est une promesse glorieuse et nous ne voulons pas la sous-estimer. Nous arrivons maintenant à la fin du chapitre, les raisons des instructions de Paul. Il prend une profonde inspiration ici comme je prends une profonde inspiration, et je ne pense pas qu'il ait siroté du café, mais je vais boire le reste de ce café froid. Il ne faisait pas froid quand j'ai commencé, mais il fait froid maintenant, donc cela signifie que je n'ai presque plus de temps pour cette conférence. Paul dit, « Même si j'espère venir vers vous bientôt, au verset 14, je vous écris ces instructions. C'est pourquoi j'appelle cela des « instructions apostoliques ». Ainsi, si je suis en retard, vous saurez comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu. Quelle est l'Église du Dieu vivant? Maintenant, vous remarquerez à l'écran que j'ai des parenthèses et des traductions qui vont de différentes manières et que la grammaire ne vous aide pas. La grammaire peut aller de deux manières. La NIV s'oriente vers la manière dont les gens devraient se comporter. Mais il n'y a personne dans le texte. Il dit simplement comment il faut se comporter. C'est la voie du milieu, donc cela pourrait être une conduite personnelle, mais cela pourrait être au singulier ou au pluriel. Et j'ai tendance à penser qu'il dit que vous saurez comment vous, Timothée, devez vous conduire dans la maison de Dieu. Quelle est l'Église du Dieu vivant? Mais la NIV et d'autres traductions le pluralisent. J'écris ces choses pour que vous sachiez comment les gens doivent se conduire. C'est une de ces belles ambiguïtés. Puisque nous ne pouvons exclure ni l'un ni l'autre, nous devons dire que cela pourrait être les deux. Il se pourrait qu'il ait écrit cela pour le bien de Timothée, pour le bien du peuple. Ou pour le bien du peuple, à travers Timothée étant et recevant ce dont il a besoin pour être et recevoir afin d'aider le peuple dans cette direction. Mais quelle est cette Église du Dieu vivant? C'est le pilier et le fondement de la vérité. Il ne fait aucun doute que le mystère d'où jaillit la véritable piété. Il y a encore ce mot piété qui n'apparaît pas souvent chez Paul et seulement dans les épîtres pastorales, Eusebio. Le mystère dit littéralement le mystère de la piété. Et ils utilisent ce terme de piété, ils le comprennent comme un terme d'origine. Et ainsi, ils disent de quelle véritable piété naît. Cela vient d'ici. mais il ne s'agit en réalité que du mystère de la piété. Cela pourrait être le mystère qui constitue la piété. Mais voici ce mystère. Il est apparu dans la chair, a été confirmé par l'Esprit, a été vu par les anges, a été prêché parmi les nations, a cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Et vous pouvez voir que ce mystère, c'est le Christ. C'est sa personne et c'est son travail. Je reviendrai maintenant sur ces termes individuels dans une seconde, mais regardons nos observations. La première observation est que la conduite est un test de la vraie foi. La conduite est un test de la vraie foi. J'écris sur la façon dont les gens devraient se comporter. Permettez-moi de remonter le verset ici, puis de revenir à mes observations. Évidemment, l'Église est un lieu où les gens expriment leur foi en Christ. Et Paul veut que les gens croient à la vérité sur Jésus. Et il va nous donner ici 6 vérités sur Jésus. Mais le test pour savoir si nous avons Jésus ou non est la manière dont nous vivons. Jésus a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et c'est une vie de foi en Christ. C'est une vie d'amour pour le Christ. C'est important à observer. Deuxièmement, nous voyons que l'Église ancre le règne rédempteur de Dieu dans le monde. L'Église est appelée le pilier et le fondement de la vérité. Et c'est intéressant qu'on l'appelle la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est transcendant. Il n'est pas limité à ce monde, et surtout pas à un emplacement géographique. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout comme Dieu avait des façons d'être avec son peuple à l'époque de l'Ancien Testament et à travers les institutions de l'Ancien Testament, Dieu a une assemblée dans le monde composée de nombreuses assemblées, familles et individus. C'est l'Ecclésia, la congrégation, l'assemblée du Dieu vivant. Et cette Église est le pilier et le fondement de la vérité. L'Église n'a pas le monopole de la vérité. Dieu est présent dans le monde avec son peuple. Il est particulièrement présent à travers l'Église. Nous devrions avoir une vue élevée sur l'Église. Paul l'a fait. Et puis, comment fonctionne l'Église de Dieu et le royaume de Dieu, comment ils réussissent alors qu'ils ont parfois l'air de mourir, cela dépasse la compréhension humaine. C'est un mystère. Mais le succès de l'Église est garanti par le mystère du succès de son chef, de son Seigneur, de son Sauveur. Et ce serait Christ. Et sa personne et son œuvre sont la clé et le cœur de la conduite pieuse que Paul écrit pour promouvoir. Il est donc très important que nous voyions ces 6. Ce ne sont en réalité que quelques mots en grec. Je fais un peu d'espacement ici pour tout mettre au même endroit. Nous voyons Paul dire, « Je vais bientôt venir, j'espère, mais en attendant d'y arriver, je veux que tout se déroule comme il se doit. » Je veux que vous viviez comme vous le devriez et que l'Église vive comme elle le devrait. Et comment cela peut-il arriver dans l'opposition et la confusion, l'ambiguïté d'un avenir inconnu, comment cela peut-il arriver? C'est un mystère, mais voici le mystère d'où vient la piété que j'appelle, c'est de là que tout vient. Ainsi, tout comme il a commencé par dire, Christ, notre espérance. Il revient ici, prenant une profonde inspiration au verset 14. Il va reprendre dans une minute, mais il pose simplement le fondement du mystère qui produit la piété. L'incarnation, le Christ est apparu dans la chair, ce qui ne correspond pas à la compréhension juive de Dieu. Deutéronome 4 interdit de créer une image de Dieu sous la forme d'un homme ou d'une femme. Les premiers chrétiens ne créaient pas une image de Dieu sous la forme d'un homme ou d'une femme, mais ils ont étendu cela, et les rabbins encore aujourd'hui l'étendent pour prouver que le christianisme est une compréhension aberrante de Dieu parce qu'il représente Dieu comme un homme. Non, nous n'imaginons pas Dieu comme un homme, nous disons que Dieu a pris chair en Jésus. Il s'est incarné, ce n'est pas une image, c'est la vérité. Il est apparu en chair et en os. Il a été confirmé par l'Esprit. Et certaines personnes pensent que c'était le baptême lorsque le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et qu'il y a eu une voix, c'est mon Fils. D'autres pensent que dans Romains 1 à 4, il a été déclaré avec puissance Fils de Dieu par la résurrection des morts. Et je pense que c'est là l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Les anges ont joué un rôle déterminant dans l'annonce de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ils annoncent la venue du Messie dans la crèche de Luc 2, les anges étaient là. Il a été prêché parmi les nations. Nation est une belle traduction, mais aux oreilles juives, ce seraient les gentils. Allez faire des disciples de toutes les ethnies. Le mot grec est une sorte de mot dur, ethnicité. Il n'a pas été prêché seulement au peuple abrahamique, mais partout dans le monde romain. Il a été prêché à Éphèse. On croyait en lui dans le monde, pas seulement on le prêchait, mais les gens recevaient le message et ils étaient transformés et transformés en église. Et il fut élevé dans la gloire. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc, c'est émouvant, et si nous avions les mots là-haut en grec, si vous aviez appris le grec, vous verriez que ce sont tous des verbes passifs aoristes. Il y a une belle symétrie et un beau talent artistique dans cette louange du Christ. À tel point que certains éditeurs de textes grecs modernes le font ressembler à un hymne ou à de la poésie. Et je n'ai aucun moyen de vérifier qu'il s'agit d'un hymne ou d'une poésie et eux non plus. Je pense simplement que Paul a été touché par le Saint-Esprit et qu'il était doué en littérature. Et il rejette simplement six choses qui aboutissent à l'eusébia, la piété, se manifestant dans les congrégations, à travers les femmes, à travers les maris, à travers les diacres, à travers les surveillants, à travers les gens qui sont diacres et supervisés. C'est cette image étonnante de gens crasseux comme nous en train d'être nettoyés, appelés à avoir un but dans la vie. Je ne sais pas pour votre pays, mais ces dernières années, aux États-Unis, plus de 100 000 personnes meurent chaque année d'overdose de drogue. Nous avons des suicides. Un degré très élevé de dépression et de maladie mentale. Les gens deviennent de plus en plus jeunes. Aucun but dans la vie. Sans espoir. L'humanité est en ruine partout dans le monde. Et Christ vient et à cause du mystère de la façon dont il agit, on ne peut pas l'arrêter. Et il accomplit des choses glorieuses dans les mariages, dans la vie personnelle, dans les familles, dans les congrégations, dans son action à travers le monde. Pour ce faire, l'Église a besoin de dirigeants qui soient des serviteurs. Ceci et le chapitre 3 font un excellent travail en jetant les bases de la nomination de ces hommes et de leurs femmes. Merci. Il s'agit du docteur Robert W. Yarbrough dans son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 4, 1 Timothée 3.